Actu SF, les podcasts.
Nous allons commencer donc cette rencontre avec une grande dame, Chantal Montelier, scénariste, dessinatrice de bande dessinée, dessinatrice de presse aussi, romancière et peintre également. Elle a été une pionnière du dessin de presse politique féminin et une des pionnières aussi de la BD avec Annie Götzinger, Claire Bretéché. Elle est aussi la co-créatrice du prix Artemisia en 2007 avec Jeanne Pujol et Marie-Jo Bonnet, qui récompense une bande dessinée réalisée par une femme en réaction au prix d'Angoulême qui les ignorait trop. Et donc l'œuvre de Chantal est autant biographique qu'autobiographique et inspirée aussi de faits divers. C'est une œuvre qui est clairement engagée, moins centrée sur la politique qu'attentive à la marginalité et à l'exclusion, aux oubliés de la société et des révolutions. Et bien sûr, un engagement féministe qui interroge la place de la femme, d'où un discours très critique envers les dirigeants, quel que soit leur bord politique, ce qui lui vaut des inimitiés et un ostracisme qui s'est exercé tout au long de sa carrière. Mais peu importe, Chantal Montelier est sans compromission, elle ne lâche jamais rien. Donc c'est une carrière qui sera célébrée aussi prochainement avec l'exposition de la Villa d'Arson à Nice en 2024, intitulée « Qui a peur ?» de Chantal Montelier, une référence à Virginia Woolf qui n'est pas non plus anodine. Voilà, alors donc, pour commencer, tu as été dans le dessin toute petite, tu t'es intéressée au dessin dès l'âge de 8 ans.
De toute éternité, je suis née avec un crayon dans la main. Oui, c'était une façon... Vous savez, une phrase de... Est-ce que je dois dire autre chose d'abord? Oui, je dois dire autre chose quand même. Merci du travail que tu as fait sur le mien. Je crois que ça t'a quand même coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que tu as fait ça, contrairement à beaucoup d'autres qui font un peu semblant de s'intéresser au travail d'un artiste, surtout pour en récolter des bénéfices secondaires. Je crois que ce n'est pas ton cas et que tu as vraiment travaillé pour de vrai, quoi.
On est aux Utopias, là, on fait les choses sérieusement.
Voilà, merci donc à toi. Et puis merci aux gens, je suis absolument terrifiée. Un public là, que je n'ai jamais eu, enfin, en qualité sûrement, en quantité encore plus. Donc bon, je veux dire, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Je suis un peu intimidée quand même, même si je suis une vieille routière. Donc tu me présentes comme comme quoi tu me présentes comme infréquentable quoi, non, à dessin, Henri s'il vous plaît, quand je fais des jeux de mots, infréquentable à dessin, non, bon tant pis, y a que moi qui rigole. Je suis tombée dans le dessin, oui, en effet, toute petite. Il y a une phrase d'un certain Régis Debray qui est pas mon idole, mais j'adore cette phrase que je cite volontiers, qui est: le réel n'est supportable que doublé d'imaginaire. C'est joli, non?
Oui.
Voilà. Et donc, moi, je vivais dans une réalité qui était limite insupportable pour des raisons familiales que vous pouvez connaître si vous vous intéressez à certaines de mes productions. Et donc, j'avais le choix entre, passer à l'acte, me pendre ou fuir un peu dans l'imaginaire, ce que j'ai préféré faire. Donc l'imaginaire des gamines comme moi dans une province stéphanoise, pas particulièrement déshéritée, d'ailleurs j'étais plutôt dans des quartiers assez privilégiés même, on va dire. C'était quand même beaucoup, beaucoup à l'époque, les illustrés. Des illustrés, il y en avait pour les filles et pour les garçons, surtout pour les garçons, mais quelques-uns quand même pour les filles, fillettes, jeunes filles, etc., La semaine de Suzette, voilà. Mais je me suis aperçue 50 ans plus tard que la plupart des auteurs et des dessinateurs qui illustraient ces revues étaient plutôt du sexe fort, que les femmes étaient singulièrement absentes et leur imaginaire aussi. Donc, quand je suis rentrée dans la carrière, presque par inadvertance, surtout pour ne pas rester professeur d'art plastique, parce que ça aurait pu mal finir pour mes élèves, à force d'entendre dire à quoi ça sert le dessin, madame, j'ai fini par m'agacer un peu, quoi. Donc, je ne voulais pas commettre d'assassinat. Donc, j'ai opté pour la création. C'était facile à l'époque, dans les années 70, 12, 13. C'était après 68. Tous les désespoirs n'étaient pas encore permis. Il y avait de très, très nombreux, à l'époque, journaux de bandes dessinées qui commençaient à éclore, pas seulement Charlie. Qu'est-ce que tu es mieux placé que moi pour les énumérer. Donc, cette presse-là m'intéressait quand même, même si les Beaux-Arts que j'ai faites méprisaient beaucoup la bande dessinée. Moi, la bande dessinée m'a aidé à survivre enfant, hein, donc j'avais du mal à vraiment l'ignorer et la snober, quoi. Donc, voilà, après 68, envie de faire autre chose que de faire semblant d'être prof d'art plastique. Et envie de création. Donc, bande dessinée, dessin de presse politique. Et je pense qu'un peu par hasard, je me suis retrouvée à faire du dessin de presse politique quand il n'y avait encore aucune femme qui osait ce genre d'exercice.
Oui, justement, comment ça s'est fait, ça ? Comment es-tu venue à faire du dessin de presse ?
Ben, les troupeaux de l'époque étaient mal gardés, quoi, parce qu'il y avait des brèches dans la clôture. En fait, ça s'est fait par affinité élective, quoi. Donc, j'étais prof dans une boîte à Bachot, du côté de Thiers, Choisy-le-Roi, près de Paris. J'avais un de mes collègues, Aimé Marseillane, qui était également prof d'art plastique, lui, le pauvre, heureusement pour lui. Prof de français, latin, grec et tout ça le jour, mais la nuit, il s'occupait d'une revue qui existe toujours et qui s'intitule Combat syndicaliste, qui était plutôt d'une mouvance qui n'est pas vraiment la mienne, c'est-à-dire plutôt anarcho-syndicaliste. C'était une revue bilingue, franco-espagnole. Lui-même, Aimé Marseillane, Amador et Marseillane, était fils de républicains espagnols, la Retirada. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la République espagnole en comprendront. Donc, il dirigeait ce journal. Et c'est lui qui, voyant mon désespoir et mon incompétence totale à faire semblant d'être prof, m'a proposé, en 1970, 11-12, je ne sais plus exactement, de dessiner pour Combat syndicaliste. Je n'ai pas refusé son offre. Bon, ce dont parfois, certains jours, je me repens quand je vois le montant de ma retraite. Mais c'était quand même un peu casse-gueule à l'époque, parce que d'abord, en effet, les femmes étaient absolument absentes de ce secteur-là de l'édition. Et quand elle s'y aventurait, ce n'était pas toujours très apprécié, ni par les collègues, ni par les patrons de journaux, ni par... voilà. Donc, je découvre le monde de l'édition à la fois bande dessinée et de l'édition, presse politique, quoi, parce que comme je dois quand même gagner ma vie et que je dois remplacer mon boulot de prof par autre chose, en partie en tout cas, je me cherche assez vite une rédaction susceptible de me rémunérer. Et ça ne sera pas la rédaction de Combat syndicaliste, ça en sera une autre. Donc je trahis le drapeau noir au profit du drapeau rouge. Bon, vous voyez comme je suis une femme vénale. Et donc, je me retrouve à dessiner pour, l'Humanité Dimanche, La Nouvelle Critique, France Nouvelle, Révolution, L'École à Nation. Enfin, l'avantage, si vous voulez, de ce camp-là, dont je me suis sentie toujours finalement plus proche que des anards, même si j'ai pas mal de copains dans ce milieu-là, l'avantage, c'est que d'abord, il y avait une presse nombreuse, il y avait beaucoup de titres. Il y avait des titres qui, pour moi, représentaient vraiment beaucoup de choses sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan de la résistance aux idées dominantes qui ne sont pas toujours si sympathiques que ça. Par exemple, La Nouvelle Critique. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui connaissent et qui ont lu La Nouvelle Critique, qui était vraiment un journal qui fertilisait les rétines, mais aussi les neurones. Donc, voilà. Donc, je remplace... en 70, 11-12, sans trop de difficultés, mon travail d'enseignante du dessin d'art plastique dans les lycées et collèges. Donc, je suis un peu remarquée puisque je suis à peu près la seule, voire même pas qu'à peu près, complètement la seule. C'est-à-dire, les femmes dessinatrices de presse, à ce moment-là, n'existent pas. Est-ce que tu confirmes ?
Oui, je confirme. Tu as été la première dessinatrice de presse, la première femme dessinatrice de presse. Alors, même politique. Dans le domaine de la contestation, tu as déjà essuyé des refus. Consultation gynécologique au lendemain de la loi Veil, qu'on a vu passer là, avait été refusée aussi.
Et je peux donner quelques éléments de détails. Donc, je travaillais à un moment, il y avait beaucoup de journaux, comment dire, il en naissait presque tous les matins, mais il en mourait aussi presque tous les soirs. C'était une époque extrêmement, comment dire, qui favorisait ce type d'expression, quoi. C'était la période quand même beaucoup aussi du pré ou du post-programme commun d'Union de la Gauche, je ne sais pas si ça vous parle. Programme commun d'Union de la Gauche, PC, PS, radicaux, ok. Jusqu'à ce que le camarade Marchais dise à sa femme, Liliane fait la valise, on rentre à Paris, considérant que voilà, on allait, enfin, ce camp-là allait se faire avoir, c'est ce qui d'ailleurs s'est passé. Donc je travaillais pour un journal qui était assez, consensuel, quoi, qui réunissait ces tendances-là, et qui était le seul journal qui s'appelait L'Unité, qui était dirigé, c'est la première fois de ma vie et peut-être la seule, où je travaille pour c'était un hebdomadaire qui était donc dirigé par une femme. À part ce journal-là, je n'ai eu comme rédacteur en chef que des messieurs. Donc je publie là, je crois que c'était un hebdomadaire, L'Unité, et je commence à publier très très régulièrement dans ce journal, jusqu'à ce que l'Union de la Gauche explose, c'est-à-dire quoi, 1980. Non. Et là, je perds quand même pas mal de support. C'est-à-dire tous ces journaux qui sont nés après 68. Bon, je ne vais pas énumérer tous les titres, hein, y compris côté BD. Hein. Ces journaux ont tenu finalement un temps relativement court. Et sont, on va dire, 10 ans. Quoi. C'est-à-dire, ils naissent vers 73 et ils meurent vers 83. Grâce à un peu, pas seulement, mais Margaret Thatcher. Le TINA, Verizno Alternative, où les espoirs qui ont été mis dans l'Union de la Gauche à ce moment-là, espoirs politiques, espoirs sociaux, espoirs culturels, espoirs féminins, féministes, se heurtent au mur de l'argent, quand même, parce que c'est de ça un petit peu qu'il s'agit, quoi. Et bon, la chute de l'URSS et tout le reste, je vous en passais des meilleurs. Et tous ces titres qui ont fleuri dans ces années-là, 70, 15, etc., disparaissent, mais à une vitesse absolument foudroyante, quoi, sidérante. Et je me retrouve un peu le bec dans l'eau, quoi. Et il me reste quelques titres de bande dessinée, de journaux de bande dessinée comme À Suivre, Métal Hurlant, Anana, enfin, quoi qu'Anana disparaît aussi très vite.
Très vite, oui.
C'est-à-dire, j'ai pu mesurer, là, pendant cette période de 15 ans à peu près, la fragilité incroyable. De tout ça, quoi. C'est, j'en suis encore pas revenu 70 ans plus tard, quoi. Comment c'est possible alors qu'il y avait une vraie, il y avait une intensité, il y avait une force, il y avait une envie. J'ai travaillé pour le journal de Michel Butel, par exemple, qui était aussi le journal d'ailleurs de Marguerite Duras, que je croisais dans les couloirs. Je me disais, mais là, c'est parti pour un siècle, quoi, parce qu'il y avait aussi les forces du féminisme. Et pouf. Je veux dire, le TINA, tout, enfin, le TINA, c'est une façon un peu courte de parler des choses. Mm-hmm. C'est pas que ça. C'est aussi des abandons. C'est aussi. Vous savez, il y a une phrase, tu m'arrêtes si je dis trop de choses déplacées. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est il ne voulait pas plus de liberté, plus de. Il, vous en ferez ce que vous voudrez de mon il. Il ne voulait pas plus de liberté, plus de fraternité, plus d'égalité. Il voulait être bourgeois comme les bourgeois. Et je pense qu'il y a ça aussi dans cet échec, si je puis me permettre. Je n'ai pas fait Sciences Po, hein, j'ai fait les Beaux-Arts à Saint-Étienne. Première école de France, quand même. Et je pense que cet esprit-là, moi, je le combattrai toute ma vie, parce que je pense que voilà, c'est la régression assurée à tout point de vue. À tout point de vue. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, de mon point de vue, qui est très subjectif et qui n'engage que moi.
Oui, justement, alors sur ces dessins, bon, tu avais dit à un moment que mon but à moi n'était pas de caricaturer à outrance, de ridiculiser mes modèles, mais plutôt de mettre en image les rapports de classe, d'exploitation, de domination et leurs conséquences. Et ce n'est pas seulement dans la presse, mais aussi déjà dans la bande dessinée où tu as toujours fait des illustrations de ce type. Il y a dans Maintenant, dans Charlie Mensuel, une page avec un long texte, on en a vu passer, des tranches de vie, des trajectoires brisées, des situations parfois un peu sordides qui dénoncent les maux de la société. Et ce sont des dessins, on peut déjà aussi apprécier ton sens du décor architectural. Il y avait champ contre champ aussi, entre la partie positive, la partie négative, deux points de vue différents de la même histoire. Et tu te battais aussi pour réussir à caser de petites BD dans ces journaux politiques qui n'en voulaient pas. Alors après, ça commence avec Anana et Métal Hurlant. Comment ça s'est passé, ça ?
Très mal. Ça continue. Non, je rigole. Mais tu oublies ma première bande dessinée.
Dans le circus ? Avant circus ?
Non. Je fais plutôt du dessin politique, des dessins uniques. Mm-hmm. Et puis je me dis, après tout, pourquoi je ne ferais pas comme ceux de Charlie, comme ceux du Canard, pourquoi je ne ferais pas aussi une histoire d'actualité, une histoire en bande dessinée. Après tout, pourquoi me l'interdire pour faire des dessins uniques. Et une de mes premières bandes dessinées portait sur la loi Veil, la loi pour l'IVG, n'est-ce pas ?
Oui.
Et sur sa non-application. C'est-à-dire, je militais vaguement. Je ne suis pas une grande militante, en fait. Mais je militais un peu au MLAC, quand même, un peu entraînée par quelques copines, et qui me disaient, mais en fait, ce n'est pas du tout réglé. Simone Veil a réussi à faire passer cette loi, mais ce n'est pas parce qu'une loi passe qu'elle est appliquée. Or, dans la réalité réelle, c'est-à-dire le monde des hôpitaux, le monde des cliniques, le monde médical, cette loi était systématiquement... Les femmes qui étaient en demande d'IVG étaient rembarrées au nom de la clause de conscience. Là, je parle... C'est quoi la loi Veil ? C'est quelle année, toi qui sais tout ? Je ne sais plus. Tu ne te souviens pas. Donc, j'accompagne avec des militantes du MLAC, donc peut-être que vous la connaissez, une de nos rares femmes cinéastes qui a réussi à peu près à faire une sorte d'œuvre, Colline Serrault, la fille de Jean-Marie Serrault. On accompagne les femmes en demande d'IVG et elles se prennent vraiment la porte dans la figure, quoi, au nom de ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire que le patron de l'hôpital, le patron de la clinique, à partir du moment où sa religion, ou ses principes, ou ses caprices lui interdisent de pratiquer l'IVG, clause de conscience, boum. Et si le patron de l'hôpital dit « Ah non, 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 moi je suis désolé, ma religion m'interdit, ma femme l'interdit, mes principes m'interdisent, ben, il faut qu'elles aillent se faire avorter ailleurs. » Et ça, si vous voulez, c'était quand même, c'était pas une exception ou deux, hein. C'était quasiment la totalité du corps médical arrivé à un certain niveau d'autorité qui était dans cette posture-là de refuser assez systématiquement de pratiquer des IVG. Donc les femmes, bien que la loi Veil soit passée, retournaient aux aiguilles à tricoter et à ce genre de choses tout à fait dangereuses pour elles, de toute façon. Donc je peux dire que c'est ma première bande dessinée et je crois que dans tout le champ...
On l'a vu passer là, hein, elle a défilé.
Ouais. Et dans tout ce qui se publiait à l'époque, que ce soit dans Charlie, dans Le Canard, dans qu'est-ce qu'il y avait d'autre, dans Pilote, etc., je n'ai pas vu ça nulle part. D'où l'intérêt, à mes yeux en tout cas, pourrait me contredire, d'avoir un regard féminin dans ce domaine-là de, comment dire, des interventions journalistico-graphiques, d'avoir un regard féminin sensible par rapport à ces questions. Sinon, on est dans un imaginaire totalement masculin, ce dont la bande dessinée procédait en tout cas, jusqu'à ce que j'y mette les pieds et que je foute un peu le bordel là-dedans. Mais de toute éternité, la bande dessinée était créée par les seuls hommes, les seuls garçons, les seuls mâles, quoi. Et donc, cette bande dessinée sur la non-application de la loi Veil, je pense que je vous mets au défi d'en trouver une autre du même genre. Voilà, donc j'en tire presque gloire, enfin, un petit peu. OK ?
OK.
Voilà.
Et donc, tu vas commencer à Anana, mais en fait, la première bande dessinée sortira dans Métal Hurlant. Dans Anana, c'est un polar, Andy Gang. Il y aura trois albums. Il se situe... Alors, d'où vient ce personnage de policier ?
Sans doute de mon imagination, un peu, voilà. Non, c'est simplement que quand je démarre, donc je suis demandée à un moment donné, parce que je commence à me faire un peu repérer quand même par la police, mais pas seulement. Je me fais aussi repérer par les gens, les éditeurs de bandes dessinées, dont les Humanistes Associés, je ne sais pas si ça vous parle, qui créent, outre un journal qui s'intitule Métal Hurlant et qui renaît en ce moment de ses cendres, qui publie une autre, qu'est-ce que c'est, une revue, un journal, oui. une revue, qui s'intitule A, point d'exclamation, Nana. Bon, je ne suis absolument pas responsable de ce titre. Quand j'ai dit à mon mari de l'époque, le premier, tiens, je vais publier dans Nana, il a cru que c'était une revue tropicale, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Andy Gang, pour Andy Gang, donc on accepte que je fasse, que je publie dans Anana. Ok. Que faire là-dedans ? C'était très, comment dire, féminin, mais une façon d'être trop de féminin pour moi, tu le féminin, quoi. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu mixte l'imaginaire. Alors là, c'était vraiment des histoires féminines pour les femmes, quoi. Et donc, du coup, n'écoutant que mon esprit de contradiction, j'ai proposé un personnage masculin, trop viril, trop caricatural de ce point de vue-là, qui s'intitulait Andy Gang, en m'inspirant, comme je continuais quand même beaucoup à travailler pour la presse d'information et la presse politique, Huma Dimanche, etc., un personnage qui défiait, qui était très présent dans l'actualité du moment, le Inspecteur Marchaudon, je crois. Et Coluche en avait fait un film. Enfin, Coluche, ou metteur...
Roger Marchaudon,
l'inspecteur Labavure.
Voilà.
Et c'était sous Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Giscard d'Estaing, c'est le mec qui a décapité la Banque de France au profit des banques privées. Je ne dirais pas laquelle. Mais enfin, vous allez deviner. Et si vous voulez, il était très, très présent dans l'actualité du moment. Il butait tout ce qui ressemblait de près ou de loin à... un bronzé de type méditerranéen sans domicile fixe. Il suffit que quelqu'un de ce genre se stationne trop longtemps devant une banque et boum, il se prenait non pas un LBD mais l'équivalent de l'époque. Enfin, il avait fait beaucoup de dégâts, tel point que même des gens comme Coluche et son réalisateur, le réalisateur du Brigadier Marchaudon, s'y étaient intéressés. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre Anana à rebrousse-poil et je vais faire des histoires de bavures policières. Au lieu de faire des histoires de contes de fées revisités sur un mode un peu ironico, humoristico, féministe. Bon, raison, tort, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà comment je démarre dans ce journal qui a eu la vie assez courte, qui était le premier journal qu'on ait jamais vu au monde, ou presque, en tout cas en Europe, qui publiait de la bande dessinée féminine et qui inversait surtout le rapport. C'est-à-dire dans tous les autres journaux, 4, 5, combien il y en avait, je ne sais pas.
Anana, de journaux.
Tu dors ou quoi ?
Il y en avait pas mal, mais Anana, non. Anana, il y a eu 9 numéros.
Il y a eu 9 numéros, mais bon, il y avait donc un journal de dessinatrices femmes au milieu de, je ne sais pas, une douzaine de journaux de bande dessinée masculine, non ?
Oui, il y en a même un peu plus avec les petites productions. Mais enfin, oui, on peut dire ce
chiffre. Et on inversait le rapport, c'est-à-dire dans les journaux, j'allais dire normaux, normal. Il y avait de temps en temps une femme pour faire jolie, quand même, pour montrer qu'on n'était pas sexiste. Le reste, c'était des mecs et des mecs et des mecs et des mecs et des mecs. Et dans Anana, pourquoi tu rigoles ? C'est vrai ?
Oui.
Et dans Anana, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire, c'était des femmes et des femmes et des femmes. Et puis un invité, homme, qu'on persécutait du mieux qu'on pouvait, mais enfin, ensemble, ils ont survécu. Je ne sais plus où j'en étais. Vas-y, reprends.
Disons que le policier Andy Gang, c'est quand même celui qui fait des bavures sans arrêt, et c'était exactement ce que tu avais voulu mettre dans le journal Anana. Je signale que justement, il y a une anthologie qui vient de sortir, qui reprend pas mal d'extraits des 9 numéros de cette revue. Alors, en même temps, tu vas démarrer à Métal Hurlant. Et alors là, on est en pleine science-fiction avec une trilogie qui est devenue social-fiction. Et tu commences des petits récits complets qui s'intitulent dans la série 1996. On est dans l'univers de George Orwell, quoi. C'est quelque chose de très dystopique.
Oui.
Voilà.
Très.
Très.
Tu pinailles, non ?
Non. On peut même dire qu'il y a eu une des BD qui s'est retrouvée en tract, chers collaborateurs.
Chers amis, chers collaborateurs,
qui a été distribuée ensuite dans des manifs. Donc, ça a été repris de la revue Métal Hurlant.
Rien de caché, t'es de la police, non ?
Je suis bien renseigné.
Si tu permets, finir avec Anana.
Oui, vas-y.
Donc, je suis incontrôlable. Donc, 9 numéros. Le dernier numéro fait scandale parce que c'était intitulé, le titre c'était Bonne fête papa, un numéro sur l'inceste.
L'inceste, oui.
J'aurais été rédactrice en chef de ce canard, ça serait jamais passé, hein, ce truc-là. Bon, c'est sorti, Bonne fête papa, l'inceste, numéro sur l'inceste, pourquoi l'inceste, c'était pas moi la responsable de la rédaction. Je trouve ça, je sais pas quel est le bon mot, je ne vais pas jouer les mères la pudeur non plus, mais un peu indécent, quoi. C'est-à-dire trois petites minettes avec une petite robe à ras-le-bonbon et qui s'offre au patriarcat, quoi. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué quand même l'autonomie pour les femmes, en tout cas dans ce secteur, parce que je me suis aperçue 30 ans après que ce n'était pas du tout une rédactrice en chef qui choisissait ça. C'était un certain Philippe Manœuvre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un rédacteur en chef de Métal Hurlant, mais aussi qui s'occupait des couvertures d'Anana. Donc c'est un journal féminin. Je dénonce tout ça devant le peuple. Donc c'est un journal soi-disant féminin, mais dont la rédaction en chef et dont les couvertures étaient le choix quand même d'un Philippe Manœuvre qui n'avait rien de très féministe. Bon, bref, vraiment la parenthèse. Donc, si vous voulez, cette couverture heurte les yeux sensibles de la commission de censure, bleu, blanc, rouge, républicaine, et notamment les yeux d'une députée communiste, en l'occurrence l'épouse Marguerite Lejeune, épouse de François Lejeune, alias, vous comprenez pourquoi on m'invite jamais dans les trucs comme ça, alias, comment il s'appelait, qui signait Jean Eiffel, donc le dessinateur [S2] Oui. [S1] Vedette de l'humain, son épouse, membre député communiste, membre de la commission de censure, demande à la dite commission d'interdire à Nana d'être visible dans les kiosques de France et de Navarre. Merci, camarade. Donc, à partir du moment... Vous m'avez suivi, là ? Non, ça fait rien. Je continue. Donc, à partir du moment où ce journal de femmes, le premier du genre, n'est plus rendu visible dans les kiosques, ben on meurt dans une indifférence absolument, mais alors générale. Je crois que j'ai été la seule avec la patronne du journal, Jeannick Dionnet, à être invitée dans une émission de télévision de l'époque. J'ai compté, j'étais la seule femme au milieu, avec Jeannick, au milieu de, je sais pas, de plus de 20 messieurs, Cavana, Volinsky, j'en passe et des meilleurs. Et si vous allez sur l'INA, sur le site de l'INA et que vous tapez Chantal Montelier, interdiction de Anana, vous verrez que je n'ai même pas pu... Enfin, je sais que j'ai dit des trucs, mais qui n'ont pas été gardés. Qui n'ont pas été gardés. Donc, en fait, je suis là. Je suis encore à peu près... Voilà. Pas encore complètement... Voilà. Mais rien. Je ne dis rien. Je suis... Voilà, il y a une femme, on a invité une femme de Anana. Je n'ai pas pu dire un seul mot. Excusez-moi, mais c'est juste la réalité. Enfin, je ne sais pas de soulever les masses populaires en prenant un discours féministe pur et dur. Je vous fais part d'une réalité, d'une époque donnée, qui vient quand même après 68, après un mouvement quand même, qui est un mouvement de libération des femmes, MLF et compagnie, qui était quand même assez considérable à une certaine époque quand même, et qui n'a pas touché, effleuré le monde du dessin politique et le monde de la bande dessinée, quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Oui ? Un peu ? Or, si vous voulez, ce monde-là, ce monde, cette imagerie populaire là, qui fait le plaisir quand même de beaucoup de lecteurs, surtout mâles d'ailleurs, a été complètement épargné de ce que les féministes ont pu faire, dire et produire pour faire bouger les lignes dans le reste de la société. Bon, moi, je suis désolée, mais ça me pose problème. J'ai l'impression parfois d'être la seule. Ben, tant pis, hein, je continuerai quand même à interroger ce secteur-là de l'édition. Hein, mm-hmm. J'ai raison.
Complètement. Donc, on revient à Social Fiction, 1996, qui est donc une série de récits parfois très courts, une ou trois pages, et qui nous montre un univers orwellien qui s'en prend à la société de consommation et qui dénonce un petit peu pas mal de choses. Ça rappelle par moments Ballard, l'auteur de Crash, lorsqu'il y a une salle d'exposition avec des voitures accidentées, dans laquelle, enfin là maintenant, on y mettait aussi des momies, hein, des personnes momifiées. Et donc je parlais tout à l'heure de Chers collaborateurs, c'est la page où une charmante hôtesse annonce aux travailleurs que puisqu'il y a une pénurie et donc une compression de personnel, vous êtes priés de passer en salle de désintégration. Voilà, c'était assez fort. Alors après, il y aura Shelter, deuxième volet, qui est une dystopie au sein de l'utopie, si l'on veut, puisque c'est un supermarché, un très grand, où finalement il y a une alerte atomique et les clients sont priés de rester à l'intérieur de ce supermarché qui est protégé des radiations. Et ils vont devoir s'organiser en sorte de micro-société et qui va devenir de plus en plus totalitaire avec un certain contrôle des gens. Donc ils vont dormir dans les meubles, dans les lits d'exposition, ils vont devoir prendre la nourriture qui est là, il paraît qu'on peut tenir longtemps. Mais petit à petit, on enlève des livres de la bibliothèque, certains livres, évidemment,
politiques. Des librairies, plutôt.
Voilà. Et donc, c'est un récit qui avait assez marqué, puisque ça t'a permis d'être invité à la télévision dans l'émission Apostrophe.
Catastrophe.
Catastrophe, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc les dystopies, après le brigadier Andy Gang, après un tas d'autres choses. Oui, donc Anana est tuée par la censure, comme vous l'avez compris, là, après ce que je vous ai raconté. Toutes les femmes qui dessinaient pour ce journal féminin, Nicole Clavelou, Sestac, un petit peu, comme l'autre, Cécilia Capuana, bon, il y avait quelques Françaises, 4 ou 5 ou 6. Toutes ces femmes venaient quand même, globalement, à part moi, toutes les autres, venaient de la bande dessinée pour enfants, Bayard Press, etc. Donc, racontaient des histoires d'enfants pour les enfants. Anana a eu le mérite, si vous voulez, de permettre à toutes ces dessinatrices des années 70-80 de pouvoir s'exprimer en tant qu'adultes, parlant à des adultes. Donc un imaginaire féminin qui, tout à coup, arrivait sur le marché, était rendu visible par cette revue, donc qui a été très très vite bâillonnée, quoi, et assassinée. Toutes ces femmes retournent à la bande dessinée pour enfants, sauf moi, qui n'en venais pas de toute façon, qui suis, si j'ose dire, récupérée, entre guillemets, par le grand frère d'Anana, qui s'appelle donc Métal Hurlant. Et je suis autorisée, par faveur spéciale, à continuer à publier dans cette maison d'édition Les Humanistes Associés, qui s'appelle, plutôt dissociée de mon point de vue, mais bon. Et de poursuivre donc une production de dessins, de bandes dessinées plus ou moins adultes, en direction d'un public plus ou moins adulte. Métal Hurlant est quand même privilégié quand même beaucoup la science-fiction, ce qui m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est le réel terrestre, c'est les rapports de force, les rapports hommes-femmes, les rapports de domination, la lutte des classes, ce genre de joyeuseté, quoi. Mais c'est vrai que le fait de me retrouver publié dans une revue plutôt favorisant un imaginaire pas très réaliste ni très socialiste m'incite, si vous voulez, à sortir de mes histoires vraiment réalistes et me pousse à créer des histoires un peu plus imaginaires, un peu plus fictionnelles, mais pas science-fiction, plutôt social-fiction. Alors pourquoi social-fiction ? Parce que là, donc, on est dans des années où ça y est, ça commence, c'est-à-dire les dégraissages dont vous avez peut-être tous plus ou moins entendu parler, la casse industrielle. Je suis d'une ville qui s'appelle Saint-Étienne, qui a été une capitale industrielle française pendant très très longtemps, qui produisait tout, le charbon, métallurgie, les vélos, les armes, enfin voilà, une ville très ouvrière et très puissante. Et c'est d'ailleurs aussi un peu de cette ville et des villes voisines que sont parties les révoltes de mineurs qui ont donné à l'arrivée le Front populaire. Vous avez dû en entendre parler. Et ensuite, le Conseil national de la résistance, enfin, tout ça participe de ça. Il y avait aussi des politiques culturelles assez avancées pour l'époque, la décentralisation, Jean d'Asté, etc. Donc à la fois l'industrie, la culture et une école des beaux-arts qui était, encore une fois, je le répète, la première de France, dont je suis sortie, j'ose le dire...
Major de la promotion.
Voilà. Voilà. S'il vous plaît, un peu de... Hein. Enfin, merci. Moralité, où j'en étais? Tu peux me rappeler où j'en étais, là? Non. La désindustrialisation. Donc, cette ville qui était une capitale industrielle devient, mais alors assez vite quand même, hein, une capitale du chômage et se retrouve dans les années, les magnifiques, la décennie 80, se retrouve la ville la plus endettée de France. La plus endettée de France. C'est pas mal, quand même, pour une capitale industrielle. Bon, évidemment, pour les Chinois, il se passe autre chose. Pour les Indiens, il se passe... Mais pour Saint-Étienne, ça a été un ravage. Et je pense que ma veine dystopique vient un petit peu de ce constat-là. J'étais très attachée à cette ville. J'étais très attachée à ce monde ouvrier, même si j'en procède qu'à moitié. Voilà, j'étais extrêmement choquée, indignée. Et je me disais, mais que vont devenir tous ces gens, tous ces ouvriers sans ouvrage, tous ces mineurs sans mine, tous ces artisans sans artisanat, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Bon, et comme j'ai un cerveau un peu malade, n'est-ce pas, comme dirait l'autre, j'ai imaginé, selon la ligne de plus grande pente, que devient cette société, qui est une société qui est entièrement construite sur le travail, quand le travail disparaît? Qu'est-ce qu'on fait des gens? D'où l'idée, on les désintègre, quoi, finalement. C'est ça qu'il faudrait faire, il faut les désintégrer, ils n'ont plus aucune raison d'exister. Donc là, effectivement, le premier déclic vient un peu de ce... Tu as bien fait de relever de partir de cette planche-là. Chers amis, une dame derrière un écran, genre pin-up, qui explique aux ouvriers rassemblés pour essayer de sauver leur emploi. Chers amis, chers collaborateurs, notre usine étant dans l'obligation de fermer ses portes et votre mouvement n'ayant pu aboutir, nous vous prions de bien vouloir, parce que ces gens-là sont très polis, hein, nous vous prions de bien vouloir passer en salle de désintégration. Merci. C'est venu sans même que je le veuille. Et après, c'est le premier pas qui coûte. Donc ensuite, j'ai proposé à mes éditeurs de continuer sur cette lancée très euphorisante. Et j'ai créé une série d'histoires sur cette veine, effectivement un peu orwellienne, un peu Huxley.
Oui, un peu Huxley aussi,
un
oui.
Un peu Huxley. Et si vous voulez, à partir du moment où le travail n'est plus là, qu'est-ce qui reste? Il reste des solutions de survie, plus ou moins, légales. Il reste la répression. Il reste le contrôle social. Tout ça marche ensemble. Hein. Et le contrôle social, il commence assez vite. Hein. Le plan, comment ça s'appelait, la loi sécurité et liberté de Charles Pasqua, qui est passée d'ailleurs grâce à une manipulation policière avec l'histoire Rémopin, à laquelle j'ai consacré un livre qu'on pourrait appeler une contre-enquête, Florence Ray, Audrey Maupin, deux jeunes gens qui après, je ne vais peut-être pas épiloguer trop longtemps, mais si vous voulez, deux jeunes gens un peu en déshérence, après les histoires de Vaquet, les manifs, qui n'arrivent pas à rentrer à nouveau dans les clous, quoi, qui partent dans une dérive un peu action directe, quoi. Mais en fait, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Et le troisième est un sous-marin des RG et un membre de la sécurité militaire algérienne. Et là, ça commence. La loi sécurité-liberté de Charles Pasqua ne passait pas parce que l'Assemblée votait contre. Je vire un peu politique comme truc, là. Oui, tant pis.
Continue.
Et donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait cette dérive de ces deux jeunes gens pilotés par un flic Ça se termine par des échanges de coups de feu, place de la Nation. Il y a un policier qui est tué. Pouf. Le lendemain, la loi sécurité et liberté passe, comme les doigts dans le nez. C'est-à-dire tous les députés qui disent « Ah non, non, parce que quand même, liberté, liberté, sécurité, oui, mais pas au prix de toutes les libertés. » Ben voilà, donc on tue des flics le jour, place de la Nation, après une manipulation policière énorme. Et ben tout le monde, tous les députés vont voter « Oui, oui, sécurité, 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 caméra, caméra, vidéo et compagnie. » J'ai consacré, à la demande d'un éditeur qui m'a poussé au crime, en l'occurrence Jean-Luc Fromental des éditions de Noël, qui me dit « Chantal, j'étais interdite de publication à cette époque. Hein, je ne pouvais plus faire de bande dessinée, plus personne n'en voulait. » Bon, bref, il y en a un qui rompt le cercle vertueux et qui me propose, qui me pousse au crime en me proposant de faire un album sur cette histoire qui est pour moi la bascule. Et on est en quelle année, ça, Rémopin ? C'est quelle année, Rémopin ? Tu ne sais plus.
Non, j'ai oublié les dates, moi.
Mais c'est-à-dire, là, on change de société. On change vraiment radicalement de société, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Bon, j'ai ce livre qui s'appelle « Les damnés de Nanterre ». Si vous en avez la curiosité, vous pouvez peut-être l'acheter, le lire.
C'est un beau titre. Et d'ailleurs, je signale qu'il avait été sélectionné pour le prix PACA des lycéens en 2007. Voilà, où tu avais vraiment repris l'enquête, effectivement, et que tu avais obligé les gens à regarder un petit peu ce qui se passait derrière cette affaire qu'on avait beaucoup médiatisée à l'époque. Pour en revenir à Shelter, effectivement, avec cette science-fiction, tu interroges quand même la société d'aujourd'hui. Je peux donner une citation, c'est « La police, c'est l'organisation de la société comme une totalité. Dans cette dystopie réalisée, la police est le pouvoir absolu. » Et là, on a ce microcosme de supermarché. J'ai bien vérifié les dates, parce qu'il y a pas mal d'histoires de gens enfermés dans des supermarchés, mais tu as été la première. Shelter a été réalisé avant le film de Romero, et tous les films d'enfermement dans un tel milieu. Parce que Shelter débute en juillet 78 dans Métal Hurlant. Zombie, qui est le deuxième film de la trilogie de Romero, se déroule dans un centre commercial et ça sort en septembre 78 en Italie seulement. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'il sorte en France. Et ça fait aussi penser à un film sur l'observation des gens qui sont des sujets d'expérience. On pense peut-être à La mort en direct avec Romy Schneider, le film de Bertrand Tavernier, ou à celui The Truman Show avec Jim Carrey. Effectivement, parce que dans ce récit, on ne sait pas vraiment s'il y a eu une bombe ou pas à l'extérieur. L'histoire même, c'est comment on arrivera à contrôler une population qui est simplement composée de gens qui sont enfermés dans cet endroit.
Voilà. Bon. Non, je veux dire, c'est une époque de ma vie quand je faisais semblant encore d'être prof d'art plastique. J'habitais dans une ville proche de Paris, Thiers, Choisy-le-Roi, et j'allais souvent faire mes courses pour la semaine avec ma deux chevaux brinque-ballante dans un grand... Enfin, le plus grand, c'était juste à côté. Le plus grand centre commercial d'Europe qui s'appelle toujours Belle Épine. Bon, j'y allais avec mon mari de l'époque, donc. J'en ai usé trois ou quatre, il ne faut pas le dire. On plaçait le coffre de la deux chevaux et puis de temps en temps on y déjeunait et là c'est parti quand même d'un délire à deux, faut bien le reconnaître quoi, sur le thème, mais en fait on peut, y a plus besoin de rien autour quoi, c'est-à-dire y a tout ce qu'il faut pour être heureux, y a de la nourriture partout, il y a des salles de cinéma, il y a une salle de théâtre, il y a de la médecine, il y a pas une chapelle, mais peut-être que si on cherche bien. Il y a des librairies, il y a des magasins où on peut s'installer tranquille dans un coin pour bouquiner. Il manquait quoi ? Il manquait un crématorium, peut-être, mais on aurait pu y arriver. Donc, c'était l'idée qu'au fond, ces lieux-là, c'est une forme de totalitarisme de la marchandise, quoi. Voilà, et moi, ce n'était pas mon cas parce que je continuais à gambader partout et que j'avais besoin de la nature réelle, naturelle, véritable. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens de Choisy, de Thiers et compagnie qui devaient faire leur boulot, métro, boulot, dodo, et pour lesquels la sortie, c'était d'aller au centre commercial, c'est-à-dire... On évite tout le temps, le réel véritable, la nature naturelle, la vie réelle, quoi. C'est tout ça est quand même un tout petit peu artificialisé, quoi, malgré tout.
Et donc, ça t'a valu de pouvoir passer à apostrophe.
Voilà.
Et ça s'est mal passé.
Donc, je raconte cette fiction où on se dit, mais après tout, ça pourrait être un lieu aussi expérimental. Donc, on imagine voilà, une société qui est quelques dizaines d'années plus loin, avec le risque nucléaire qui est démultiplié, des guerres démultipliées partout, des centrales qui logiquement auraient dû fermer depuis belle lurette, mais qu'on continue plus ou moins à utiliser, à exploiter, alors que on n'a pas imaginé Tchernobyl, mais on aurait pu. Donc on entre quand même là dans une zone qui risque de devenir, où le risque industriel, qui n'est pas toujours très bien mesuré par nos camarades capitalistes, commence à devenir une vraie réalité. Et donc, on se disait, mais là, c'est une espèce de bunker. Il y a à bouffer pour encore 20 ans, il y a à se distraire, il y a à lire, il y a des lits partout, il y a du confort, il y a, etc. Donc, on en fait un bunker, on en fait une espèce d'abri anti-atomique qui marche avec une pile atomique. Et donc, si vous voulez, il y a deux situations où le bunker en question est mis en état d'urgence absolue. C'est soit s'il y a une attaque atomique à l'extérieur, ça se déclenche, si Poutine, le Poutine du futur, appuie vraiment sur le bouton, que ce n'est pas juste un discours. Donc là, les portes de l'abri de Shelter Market se ferment. Deuxième hypothèse, c'est si, comme ça, l'abri fonctionne avec une pile atomique, l'atomique est partout, et que là, la pile du centre explose, et dans ce cas-là, les portes se ferment aussi, mais là, pour abriter l'extérieur. Bon, or, nous, on en fait, parce que mon mari, de l'époque, a quand même un peu contribué. C'est mon imaginaire, hein. C'est mon imaginaire, mais c'est vrai que... Bon, je suis désolée, je ne suis pas toute seule dans un bunker, donc parfois, il m'arrive de parler à mes maris successifs, qui, de temps en temps, me suggèrent des pistes. Donc, voilà, donc... Alors, l'hypothèse, c'est plutôt... Donc, ceux qui sont extérieurs savent pas... Il ne s'est rien passé dehors. Donc, ils ne savent pas pourquoi les portes se sont hermétiquement closes. Et ceux qui sont dedans sont coupés de toute information, comme ils le sont aujourd'hui à Gaza, les pauvres. Plus de téléphone, plus de radio, plus que dalle. Et donc, ceux qui sont enfermés dans l'abri imaginent que ça a pété à l'extérieur. En fait, ça a pété nulle part. Ça a pété dans la tête de certains pervers au sommet de la hiérarchie sociale qui prennent cette situation-là comme la situation idéale pour faire une espèce d'expérience de survie après le grand chambardement, voir comment ça peut se passer, comment on peut gérer le truc, comment on peut gérer une population, comment on peut gérer. Voilà. Alors, comme les gens n'ont rien compris à mon histoire dans un premier temps, ben, je l'ai refaite et republiée chez un autre éditeur, en l'occurrence Benoît Peters, Les Impressions Nouvelles, où j'ai vraiment développé la fin pour que ce soit à peu près clair pour tout le monde. Et c'est vrai que, bon, quand même, cette dystopie, et non pas utopie, correspond un tout petit peu trop, d'ailleurs, à la situation dans laquelle on est. On entre aujourd'hui. Après, effectivement, je suis invité à apostrophe. Je dis évidemment tout ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire, déjà, le Mouammar Kadhafi est dans le collimateur. Donc, il y a un roman de La Pierre et Collins, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sont les auteurs d'un roman qui a eu un succès monstrueux à une certaine époque, Paris brûle-t-il, qui a été adapté, un film hollywoodien qui a inondé toute la planète. Donc, rebelote, les deux mêmes refont un roman qui est promis au même succès, qui s'intitule lui, c'est pas Paris brûle-t-il, c'est plutôt New York brûle-t-il. Alors ces deux-là, un duo franco-américain, qui imagine que Kadhafi prend Carter en otage et menace de vitrifier, avec quoi j'en sais rien, la petite fiole que brandissait Collins Powell, je sais pas, et menace de vitrifier New York si on libère pas les camps palestiniens.
Le cinquième cavalier.
Donc, Monsieur Pivot me dit, alors Chantal Montelier, qu'en pensez-vous de ce roman? Je dis, ben, j'en passe rien, j'ai rien compris. Je vois pas avec quoi Kadhafi va vitrifier New York. Ça me paraît absolument absurde. Oula. Et j'ajoute, et de toute façon, en matière de guerre nucléaire, j'ai plutôt moins peur de la Libye de Kadhafi que de l'Amérique de Carter. My God. Donc le lendemain, tous ceux qui m'avaient invité pour signer mon album me désinvitent vraiment comme un seul homme. Là, j'ai compris dans quel monde je vivais. Bon, je suis désolée, hein, c'est trop tard, là, le mal est fait, quoi. Est-ce réparable dans cette vie ou dans une autre, je ne sais pas. Voilà.
Voilà.
Voilà l'histoire de Shelter Market, que je vous recommande parce que je trouve que c'est un de mes meilleurs albums. Bon, peut-être pas, c'est pas une très grande réussite d'un point de vue purement de travail d'imprimerie, ça aurait pu être mieux. Mais je l'ai beaucoup retravaillé, je l'ai recolorisé, je l'ai redialoguisé, peut-être, on peut le dire. Non, on ne peut pas, ça ne fait rien. Et je pense que c'est une fable contemporaine, voire même un peu.
On voit tous les mèmes du mercantilisme avec le clown souriant partout, qui dit toujours be happy. Voilà, on voit
non,
tout
mais ça.
Il va falloir se dépêcher aussi parce que le temps passe.
Peut-être les gens pourraient poser 2-3 questions.
Et après, tu vas passer aussi à suivre, tu vas raconter davantage d'histoires peut-être un petit peu oniriques, insolites ou qui parlent de la folie. C'est un thème récurrent chez toi. On peut parler des rêves du fou, bon, ça c'était chez Futuropolis, de rupture, de l'inscription.
Oui, on peut en parler, c'est pas obligatoire. Non, mais la question de la folie, si vous voulez, c'est. Un jour, il y a un mec, un journaliste de France Inter, qui m'invite dans un premier temps, Philippe Bernalin. Et puis dans un deuxième temps, comme il était un peu mon voisin dans le quartier, il m'offre un livre sur Camille Claudel, pour laquelle j'ai quand même beaucoup de tendresse. Et la dédicace, c'est toutes les gonzesses qui créent deviennent nazes, admirez le vocabulaire, de Camille Claudel à Virginia Woolf, c'est ça, je reprends, de Virginia Woolf à Camille Claudel, toutes les gonzesses qui créent deviennent folles. Ah, merci Philippe Bernal, c'est sympa. Bon, bref, qu'à cela ne tienne. Et je me dis, je me heurte à ce préjugé, quoi. C'est à l'imaginaire des femmes qui fout la trouille à l'ordre, aux hommes aussi peut-être, quand les femmes se mettent à représenter le corps féminin, le corps masculin, la sexualité. Même les députés communistes, épouses de dessinateurs de l'humain, prennent peur, quoi. Et je pense qu'on en est un peu toujours là. On n'est pas complètement sorti de ça. Il ne faut pas le croire. Enfin, moi, de mon point de vue à moi, on n'en est pas complètement sorti. Donc, oui, et quand j'étais au Beaux-Arts, donc, j'étais plutôt, comme je vous l'ai dit, un assez bon élève. Et je n'étais pas la seule. Il y en avait d'autres que moi qui travaillaient pas mal. Et il y avait un groupe d'élèves filles qui étaient plutôt majoritaires, les filles, à l'époque, au Beaux-Arts, et qui étaient souvent meilleures que les garçons. Mais je sais que qui venaient toutes de. Moi, je viens d'un milieu un peu complexe, un peu cabossé, un peu etc. Mais souvent, c'était des jeunes filles de très, très, très bonnes familles qui venaient là. Elles hésitaient entre le piano et la peinture, enfin, voilà, pour le lien social, les soirées mondaines, etc. Et toutes, pas une seule de ces jeunes femmes, n'envisageaient de faire un travail personnel de création artistique. Parce qu'elles avaient toute une tante qui avait essayé de devenir peintre, de devenir sculpteur, et qui avait, au bout d'un moment, fatigué toute la famille, le mari, les enfants, et qui avait tout perdu, et qui s'était retrouvée à l'HP. C'est-à-dire, pour les femmes artistes, il y a cette menace qui pèse. Si en plus, elles ont une certaine liberté de parole, qu'elles ne marchent pas dans les clous, vraiment, pimpon, pimpon, arrivent les sirènes. On n'en est pas complètement sorti.
En 7 ans, tu n'avais jamais entendu parler de Camille Claudel au Beaux-Arts. Voilà. Et d'ailleurs, ce personnage, tu vas l'évoquer assez souvent dans les aventures de Julie Bristol. C'est souvent des trilogies chez toi, parce qu'il y a trois social fiction, il y a trois Julie Bristol, il y a trois Andy Gang.
Mais je le déplore. Je n'arrive jamais. J'ai essayé pour faire comme les dessinateurs normaux, blancs. Parce que c'est vrai qu'installer une série sur une durée, pour un dessinateur, c'est quand même un peu une sécurité, quoi. C'est installer un personnage dans une durée, c'est un peu confortable, en principe. Donc, j'ai essayé une première série avec un personnage intitulé Julie Bristol, c'est ça ?
C'est ça, Julie Bristol.
J'ai essayé une deuxième. Alors, c'était plutôt mon sujet, c'était femme, art et société. Donc, je voulais, à travers la bande dessinée, qui est un médium populaire et intéressant, de mon point de vue, sinon j'aurais laissé tomber il y a belle lurette, ça me paraissait intéressant de revisiter l'histoire de l'art des femmes à travers ce média qui n'est pas considéré comme un média vraiment artistique. Voilà, ça reste quand même dans la tête des gens un truc industriel pour distraire les enfants de 7 à 77 ans et les tirages, et il faut vendre. Donc, j'essayais d'installer modestement un personnage déjà féminin et pas toujours, un super-héros avec des super-muscles.
Oui, non, pas du tout. C'est une vidéaste.
Donc, c'était une petite bonne femme.
Qui mène ses enquêtes, voilà.
Voilà, qui travaille sur ce thème. Un album, je me fais tuer, je fais assassiner au premier album sorti. Je dois porter mes guêtres chez un autre éditeur qui m'en sort deux qui sont totalement invisibilisés, d'Argo. Et puis, je suis obligée de laisser tomber. Je récidive avec un autre personnage qui n'est pas du tout une vidéaste, qui est plutôt une journaliste, une intello, qui fait des contre-enquêtes. Donc, Tchernobyl, mon amour, le premier. Et le deuxième s'appelle Les damnés de Nanterre. Mm-hmm. Mais pas, les deux ne sont pas chez le même éditeur.
Oui, c'est Chris Winkler,
voilà. Bon, ça marche très bien le premier, mais on ne veut pas du second pour des raisons qui m'échappent totalement. Donc, je dois changer d'éditeur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est épuisant quand même, c'est épuisant, je vous assure, c'est épuisant. Plaignez-moi, s'il vous plaît.
Et Camille Claudel intervient aussi dans Sorcières, mes sœurs, qui est un recueil de récits complets qui était paru dans À suivre au début, qui montre comment on s'en est pris aux femmes de tout le temps, depuis le Moyen-Âge, on les considère comme des sorcières. Mais à chaque fois, le récit tente d'actualiser les choses et de montrer qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Avec certains...
Tu vas finir par me déprimer. C'est moi qui fais des trucs sur tous ces sujets. Je fais rien de marrant au milieu de tout ça. Non, mais il y a de l'humour.
Il y a beaucoup d'humour, oui. C'est de l'humour noir, c'est un peu cynique, mais justement, il y a quand même beaucoup d'humour.
Tu me rassures.
Ah oui.
Parce que j'allais arrêter de me fréquenter. J'allais me faire peur. Non, j'essaie toujours de mettre une dose d'ironie, une distance, un peu de caricature de certains machos incontournables comme les éditeurs, parce qu'il y en a quand même qui devraient être retirés de la circulation. Hein. C'est des dangers publics. Donc ce n'est pas toujours premier degré, des cris de détresse et des appels désespérés. Quoi. Mais bon, c'est vrai que par mon histoire familiale, je me sens concernée par ces questions. Quoi. Quelle part, quelle place pour les femmes, quelle place pour l'imaginaire des femmes, quelle part et quelle place pour le talent des femmes, etc., etc. Donc, peut-être que je vais finir par en avoir ma dose et que je vais faire un truc à la Marcel Gottlieb avec, comment ça s'appelle les dessins Gottlieb ?
La rubrique
à braque. Bon, c'est mal barré, là, vu mon âge, je pense que je vais continuer à suivre la ligne de plus grande pente jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis, compte tenu de ce que nous sert actuellement l'actualité, mes pires instincts sont sollicités par cette actualité absolument atroce dans laquelle nous sommes. Et j'ai pas envie de faire des dessins pour rassurer, pour distraire les gens. J'ai plutôt envie de les inciter, au contraire, à ouvrir les yeux, à résister, à refuser, qu'on leur pompe leur retraite, qu'on leur pompe leur liberté qui leur reste, qu'on les oblige à marcher dans les clous, même s'ils sont plantés à l'envers. Ce qui se passe aujourd'hui même à Gaza est absolument atroce, insupportable. Ces enfants qu'on ampute sans pouvoir les anesthésier. Enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il faut se lever, il faut se battre contre cette horreur-là, même si les médias cherchent à nous anesthésier et à nous raconter que tout va de mieux en mieux. Non, c'est pas vrai.
Merci de nous ouvrir les yeux.
Des questions ?
Merci pour cette rencontre. Et vous pouvez retrouver Chantal Montelieu en dédicace.
Ils ne peuvent pas poser des questions ?
Actu SF. Les podcasts.